Les États-Unis, pays de la scolarisation et de la secondarisation précoce. Revenons à la question de l'avance états-unienne et de sa résorption depuis les années 1950. Voir les graphiques 11.3 et 11.4 précédemment abordés sur la productivité au travail. Soulignons tout d'abord que le faible niveau de productivité européenne relativement aux États-Unis observé au milieu du XXe siècle renvoie à une réalité plus ancienne. L'écart a certes été aggravé par les destructions et les désorganisations de l'appareil productif liées aux deux guerres mondiales, mais le fait important est qu'il était déjà très fort à la fin du XIXe siècle et au début du XXe. En France et en Allemagne, le produit intérieur brut ou le revenu national par habitant ou par emploi était compris entre 60 et 70% du niveau états-unien autour de 1900-1910. L'écart était moins fort dans le cas du Royaume-Uni, avec un ratio d'environ 80-90%. Mais le fait est que la productivité britannique, qui avait été la première du monde pendant la majeure partie du XIXe siècle, grâce notamment à l'avance établie au cours de la première révolution industrielle, en particulier grâce à sa domination sur l'industrie textile mondiale, avait déjà été nettement dépassée par les États-Unis en 1900-1910, après avoir perdu du terrain à un rythme accéléré au cours des décennies précédant la Première Guerre mondiale. Tous les éléments disponibles suggèrent que ces écarts de productivité anciens, persistants et croissants, tout du moins jusqu'aux années 1950-1960, s'expliquent pour une large part par l'avance historique des États-Unis en termes de formation de la main-d'œuvre. Au début du XIXe siècle, la population états-unienne est de petite taille par comparaison aux populations européennes, mais le fait est qu'elle va beaucoup plus souvent à l'école. Les données dont nous disposons, issues notamment des recensements, indiquent des taux de scolarisation primaire, ici définis comme le pourcentage d'enfants âgés de 5 à 11 ans, garçons et filles confondus, scolarisés à l'école primaire, de près de 50% dans les années 1820, 70% dans les années 1840 et de plus de 80% dans les années 1850. Si l'on exclut la population noire, la scolarisation primaire parmi les Blancs apparaît quasiment universelle, plus de 90% de la classe d'âge considérée dès les années 1840-1850. Au même moment, les taux de scolarisation primaire sont compris entre 20 et 30% au Royaume-Uni, en France et en Allemagne. Dans ces trois pays, il faudra attendre les années 1890-1910 pour atteindre le niveau de scolarisation primaire quasi universel observé aux États-Unis plus d'un demi-siècle plus tôt. Cette avance éducative états-unienne s'explique en partie par des racines religieuses et protestantes, la Suède et le Danemark ne sont d'ailleurs pas loin derrière les États-Unis au cours de la première moitié du XIXe siècle, mais également par des facteurs plus spécifiques. Ainsi, l'Allemagne est légèrement en avance sur la France et le Royaume-Uni en matière de scolarisation primaire au milieu du XIXe siècle, mais loin derrière les États-Unis. Cette avance éducative états-unienne doit également être rattachée à un phénomène classique encore observé de nos jours concernant les migrants. Concrètement, les personnes en situation de migrer vers l'Amérique au XVIIIe siècle ou au XIXe étaient en moyenne plus éduquées et plus à même d'investir dans l'éducation de leurs enfants que la population européenne de l'époque, y compris à l'intérieur d'une même origine géographique et religieuse donnée. Cette avance éducative des États-Unis par rapport à l'Europe, très nette au niveau de la scolarisation primaire dès la période 1820-1850, allait d'ailleurs en parallèle avec une extension beaucoup plus rapide du suffrage masculin. Le lien avait déjà été noté en 1835 par Tocqueville, qui voyait dans la diffusion de l'éducation et de la propriété terrienne les deux forces fondamentales permettant l'épanouissement de l'esprit démocratique aux États-Unis. De fait, les données disponibles indiquent que le taux de participation des hommes adultes blancs aux élections présidentielles aux États-Unis est passé de 26% en 1824 à 55% en 1832, et 75% en 1844. Les femmes et les Noirs restent certes longtemps exclus du droit de vote, les seconds jusqu'aux années 1960. Il n'en reste pas moins qu'il faut attendre la fin du XIXe siècle et parfois le début du XXe pour voir une telle diffusion du droit de vote en Europe. La participation aux élections locales progresse également au même rythme, ce qui contribue en retour à un plus grand soutien politique au financement des écoles par l'impôt local. Surtout, le point important est que cette avance éducative va se poursuivre pendant une grande partie du XXe siècle. En 1900-1910, alors que les pays européens viennent tout juste d'atteindre la scolarisation primaire universelle, les États-Unis sont déjà très avancés dans la généralisation de la scolarisation secondaire. De fait, les taux de scolarisation secondaire, définis comme le pourcentage d'enfants âgés de 12 à 17 ans, garçons et filles confondus, scolarisés dans des établissements d'enseignement secondaire, atteignent déjà 30% dans les années 1920, 40-50% dans les années 1930 et près de 80% à la fin des années 1950 et au début des années 1960. Autrement dit, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont déjà quasiment réalisé la scolarisation secondaire universelle. Au même moment, le taux de scolarisation secondaire est compris entre 20 et 30% au Royaume-Uni et en France, et atteint tout juste 40% en Allemagne. Dans ces trois pays, il faut attendre les années 1980-1990 pour atteindre les taux de scolarisation secondaire de 80% observés aux États-Unis dès le début des années 1960. Au Japon, en revanche, le rattrapage est plus rapide. La scolarisation secondaire atteint 60% dès les années 1950 et dépasse 80% à la fin des années 1960 et au début des années 1970. Il est intéressant de noter que des voix commencèrent à s'élever en Europe dès la fin du XIXe siècle, et en particulier au Royaume-Uni et en France, au sujet du manque d'investissement éducatif. De multiples observateurs commençaient alors à percevoir que la domination mondiale exercée par les deux puissances coloniales était fragile. Outre que la diffusion de l'éducation revêtait un enjeu moral et civilisationnel évident, l'idée relativement neuve à l'époque, selon laquelle les qualifications allaient jouer un rôle central dans la prospérité économique future, devenait de plus en plus courante. De fait, rétrospectivement, il apparaît clairement que la seconde révolution industrielle, qui se diffuse graduellement entre 1880 et 1940, avec la chimie, la sidérurgie, l'électricité, l'automobile, l'équipement ménager, etc., est beaucoup plus exigeante en formation. Lors de la première révolution industrielle, en particulier dans le charbon et le textile, on pouvait se contenter de mobiliser une force de travail relativement mécanique, encadrée par des contremaîtres et une petite minorité d'entrepreneurs et d'ingénieurs maîtrisant les nouvelles machines et procédés de production. L'ensemble reposait également de façon cruciale sur des structures étatiques, capitalistiques et coloniales en charge de l'organisation des approvisionnements en matières premières et de la division mondiale des tâches et des rôles. Avec la seconde révolution industrielle, il devint essentiel qu'une partie de plus en plus importante de la main-d'œuvre soit alphabétisée et puisse maîtriser des processus de fabrication faisant appel à la culture technique et numérique, consulter les manuels d'utilisation des équipements, et ainsi de suite. C'est par ce biais que les États-Unis, suivis de l'Allemagne et du Japon, nouvellement venus sur la scène internationale, prirent graduellement le dessus sur le Royaume-Uni et la France dans les nouveaux secteurs industriels entre 1880 et 1960. À la fin du XIXe siècle et au début du XXe, le Royaume-Uni et la France étaient trop sûrs de leur avance et de leur puissance pour prendre pleinement la mesure du nouveau défi éducatif. En France, le traumatisme consécutif à la défaite militaire face à la Prusse en 1870-1871 joua un rôle décisif pour accélérer le processus. Les lois, adoptées dans les années 1880 par la Troisième République sur l'instruction obligatoire et la centralisation du financement des écoles primaires, eurent un impact certain et positif sur la progression des taux de scolarisation. Mais le fait est qu'elles furent mises en place relativement tardivement, au terme d'une lente progression des taux d'alphabétisation et de scolarisation primaire qui avait commencé au XVIIIe siècle et s'était graduellement accéléré au cours du XIXe siècle. Au Royaume-Uni, l'inquiétude au sujet du manque d'investissement éducatif du pays commence à se manifester dès le milieu du XIXe siècle. Mais les élites politiques et économiques du pays ne s'en soucient guère, convaincues que la prospérité britannique tient avant tout à l'accumulation de capital industriel et financier et à la solidité de ses institutions propriétaristes. Des travaux récents ont ainsi montré que les résultats du recensement britannique de 1851 avaient été manipulés afin de minimiser le fossé éducatif qui était en train de se creuser avec d'autres pays, en particulier les États-Unis et l'Allemagne. En 1861, un rapport parlementaire officiel annonce fièrement que la quasi-totalité des enfants de moins de 11 ans sont scolarisés, avant d'être démenti quelques années plus tard par une enquête de terrain qui conclut que c'est le cas de moins de la moitié des enfants. Les consciences commencent à évoluer après la victoire du Nord sur le Sud aux États-Unis en 1865, qui, comme celle de la Prusse sur la France en 1871, est en grande partie interprétée parmi les élites britanniques et françaises comme le triomphe de la supériorité éducative. Les statistiques budgétaires montrent cependant que l'investissement éducatif continue d'accuser un retard marqué au Royaume-Uni jusqu'à la Première Guerre mondiale. En 1870, les dépenses publiques d'éducation, tout niveau d'éducation et de collectivité publique confondus, représentent plus de 0,7% du revenu national aux États-Unis, contre moins de 0,4% en France et moins de 0,2% au Royaume-Uni. En 1910, elles ont atteint 1,4% aux États-Unis, contre 1% en France et 0,7% au Royaume-Uni. Par comparaison, rappelons que le Royaume-Uni consacre chaque année entre 1815 et 1914 entre 2 et 3% de son revenu national pour servir des intérêts aux détenteurs des titres de la dette publique, ce qui illustre l'écart entre l'importance accordée à l'idéologie propriétariste et à la question de l'éducation. Rappelons également que les dépenses publiques d'éducation avoisinent 6% du revenu national dans les principaux pays européens au cours de la période 1980-2020. On mesure l'ampleur du chemin parcouru au cours du XXe siècle, et aussi l'importance potentielle des divergences entre pays et des inégalités entre groupes sociaux au sein de ce schéma général de montée en puissance de l'éducation. En l'occurrence, le système britannique est resté marqué par une très forte stratification sociale et éducative, notamment entre des établissements privés huppés et le tout venant des écoles et lycées publics, ce qui peut contribuer à expliquer le retard du pays en termes de productivité en dépit des efforts budgétaires réalisés depuis la fin des années 1990 et le début des années 2000. Le décrochage des classes populaires aux États-Unis depuis 1980. Comment les États-Unis, qui ont été pionniers de l'accès universel à l'éducation primaire et secondaire, et qui jusqu'au début du XXe siècle étaient sensiblement plus égalitaires que l'Europe en termes de répartition des revenus et de la propriété, sont-ils devenus, depuis les années 1980, le pays le plus inégalitaire du monde développé, à tel point que les fondements mêmes de leurs succès antérieurs sont maintenant menacés? Nous allons voir que la trajectoire éducative du pays, et en particulier le fait que l'entrée dans l'âge de l'enseignement supérieur se soit accompagnée d'une stratification éducative particulièrement extrême, a joué un rôle central. Il ne faut certes pas exagérer l'importance des racines égalitaires du pays. Les États-Unis ont toujours entretenu une relation ambiguë avec l'égalité, plus égalitaire que l'Europe par certains côtés et beaucoup plus inégalitaire sur d'autres, en particulier du fait de leurs racines esclavagistes. Nous avons d'ailleurs vu que la social-démocratie états-unienne avait ses origines idéologiques dans une forme de social-nativisme. Le Parti démocrate a longtemps été à la fois ségrégationniste vis-à-vis des Noirs et égalitaire vis-à-vis des Blancs. Nous reviendrons dans la quatrième partie sur l'évolution des coalitions électorales aux États-Unis et en Europe au XXe siècle et au début du XXIe. Nous analyserons en particulier dans quelle mesure ces différences peuvent contribuer à expliquer pourquoi le développement de l'État social et fiscal a été plus limité aux États-Unis qu'en Europe, et si des facteurs raciaux ou ethno-religieux similaires sont susceptibles de jouer un rôle comparable à l'avenir dans le contexte européen. Il reste que les États-Unis se caractérisaient encore dans les années 1950 par un niveau d'inégalité voisin ou inférieur à celui observé dans un pays comme la France, tout en disposant d'un niveau moyen de productivité et donc d'un niveau de vie deux fois plus élevé. À l'inverse, dans les années 2010, les États-Unis sont devenus beaucoup plus inégalitaires et leur avance en termes de productivité a totalement disparu. Le fait que les pays européens, en particulier l'Allemagne et la France, ont rattrapé leur retard de productivité n'est pas entièrement surprenant. À partir du moment où ces pays développaient une capacité fiscale importante dans l'après-guerre et investissaient les ressources correspondantes dans l'éducation et plus généralement dans les dépenses sociales et les infrastructures publiques, il n'est pas anormal que le retard éducatif et économique ait été comblé. La montée des inégalités aux États-Unis interroge davantage. En particulier, alors que les 50% les plus pauvres du pays bénéficiaient de conditions de vie supérieures à celles du groupe équivalent en Europe dans les années 1950, la situation s'est totalement inversée dans les années 2010. Précisons d'emblée que les causes de cet effondrement de la position relative des classes populaires aux États-Unis sont multiples et ne sauraient se résumer à l'évolution du système éducatif. C'est l'ensemble du système social et des mécanismes de formation des salaires et d'accès à l'emploi qui sont en cause. Il faut tout d'abord insister sur le fait qu'il s'agit bien d'un véritable effondrement. La part des 50% les plus pauvres, qui était d'environ 20% du revenu total pendant les années 1960-1970 et jusqu'en 1980, a été quasiment divisée par deux, passant à guère plus de 12% dans les années 2010-2015. La part des 1% les plus riches a connu l'évolution opposée. Elle est passée d'à peine 11% à plus de 20%. Voir graphique 11.5. À titre de comparaison, on remarquera que les inégalités ont également augmenté en Europe depuis 1980, avec une hausse significative de la part du centile supérieur, passant de 7% du revenu total au début des années 80 à 10% dans les années 2010, et une baisse de la part de la moitié la plus pauvre, passant de 26% du revenu total à 23%. Ce qui, dans un contexte d'affaissement général de la croissance, est loin d'être passé inaperçu. Néanmoins, les ordres de grandeur ne sont pas du tout les mêmes. En particulier, la part du revenu total allant aux 50% les plus pauvres est restée en Europe nettement supérieure à celle allant aux 1% les plus riches. Voir graphique 11.6. Il faut également souligner à quel point une telle divergence entre ces deux parties du monde de taille comparable, les États-Unis, environ 320 millions d'habitants en 2015, et l'Europe occidentale, environ 420 millions, caractérisée par des niveaux de développement et de productivité moyenne semblables, n'a absolument rien d'évident. En particulier, la mobilité du travail est plus forte aux États-Unis, conséquence notamment de la plus forte homogénéité linguistique et culturelle, et un tel facteur est réputé contribuer à la convergence des niveaux de revenus. Les États-Unis disposent également d'une fiscalité au niveau fédéral, en particulier d'un impôt fédéral sur le revenu et les successions, et de politiques sociales importantes, en particulier concernant les retraites et la santé, ce qui n'est pas le cas en Europe. De toute évidence, d'autres facteurs, allant en sens inverse, liés aux politiques sociales, fiscales et éducatives plus égalitaires menées à l'intérieur des États-nations européens, ont joué un rôle plus important. Il est maintenant bien connu que l'explosion des inégalités états-uniennes depuis 1980 a notamment pris la forme d'un envol sans précédent des très hauts revenus, et en particulier du fameux 1%. Concrètement, pour que la part des 1% les plus riches dans le revenu total dépasse à elle toute seule la part allant aux 50% les plus pauvres, il faut et il suffit que le revenu moyen du premier groupe soit plus de 50 fois plus élevé que celui du second. C'est précisément ce qui s'est produit. Voir graphique 11.7. Jusqu'en 1980, le revenu moyen des 1% les plus riches était de l'ordre de 25 fois plus élevé que celui des 50% les plus pauvres, environ 400 000 dollars par an et par adulte pour les 1% les plus riches, contre 15 000 dollars par an et par adulte pour les 50% les plus pauvres. En 2015, le revenu moyen des 1% les plus riches est plus de 80 fois plus élevé que celui des 50% les plus pauvres, environ 1,3 million de dollars pour le premier, contre toujours environ 15 000 dollars pour le second. Tous les montants sont ici exprimés en dollars constants de 2015. Mais plus encore que l'envol des 1%, le phénomène le plus important est sans aucun doute cette chute de la part des 50% les plus pauvres. Cela n'avait là encore rien d'évident. La hausse de la part des 1% les plus riches aurait pu se faire au détriment des personnes immédiatement au-dessous d'eux au sein des 10% les plus riches, ou bien au détriment des 40% suivants, au moins en partie. Or, le fait est qu'elle s'est produite presque exclusivement au détriment des 50% les plus pauvres. Il est particulièrement frappant de constater que leur pouvoir d'achat a connu une stagnation quasi complète aux États-Unis depuis la fin des années 1960. Avant impôts et transferts, le revenu moyen des 50% les plus pauvres était déjà de l'ordre de 15 000 dollars par an et par adulte à la fin des années 1960. Et il se situe toujours approximativement à ce même niveau à la fin des années 2010, en dollars 2015, un demi-siècle plus tard, ce qui n'est pas banal, compte tenu des transformations socio-économiques considérables, et notamment de la forte augmentation de la productivité moyenne, que l'économie et la société états-unienne ont connues au cours de cette période. Dans un contexte marqué de surcroît par la dérégulation croissante du système financier, une telle évolution n'a pu que contribuer à accroître l'endettement des ménages les plus pauvres et à la fragilisation du système bancaire qui a mené à la crise de 2008. Si l'on prend maintenant en compte les impôts et les transferts, on constate que la situation des 50% les plus pauvres ne s'améliore que légèrement. Voir graphique 11.8. Examinons tout d'abord les résultats obtenus en nous limitant aux transferts monétaires, y compris food stamps, bons alimentaires, qui ne sont pas à proprement parler des transferts monétaires, mais qui permettent tout de même une plus grande liberté d'usage que la plupart des transferts en nature. On constate alors que le revenu moyen n'est pas très différent après prise en compte de ces impôts et transferts, ce qui signifie que le montant des impôts payés par les 50% les plus pauvres, en particulier sous forme des taxes indirectes, est approximativement équivalent au montant des transferts monétaires reçus, y compris food stamps. Si l'on inclut à présent les remboursements liés au système public d'assurance maladie, Medicare et Medicaid, ainsi que les frais d'hospitalisation correspondants, on constate que le revenu après impôts et transferts des 50% les plus pauvres a connu une certaine progression, passant d'environ 15 000 dollars en 1970 à 20 000 dollars en 2015. Il s'agit toutefois d'une progression de niveau de vie très limitée sur une période aussi longue et qui est de surcroît assez difficile à interpréter. Ces 5 000 dollars de revenus supplémentaires liés aux dépenses de santé constitue certes pour partie une amélioration des conditions d'existence dans un contexte général d'allongement de l'espérance de vie, plus limitée toutefois aux États-Unis qu'en Europe, surtout pour les classes populaires. Mais ce transfert supplémentaire reflète également pour partie une augmentation du coût des services de santé aux États-Unis, c'est-à-dire en pratique les rémunérations des médecins, les profits des compagnies pharmaceutiques, etc., qui ont prospéré au cours des dernières décennies. Concrètement, l'augmentation de 5 000 dollars dont ont bénéficié les 50% les plus pauvres correspond environ à une semaine de revenus avant impôt d'un fournisseur de soins faisant partie des 10% des revenus les plus élevés et à environ un jour de revenus avant impôt d'un fournisseur de soins faisant partie des 1% des revenus les plus élevés. Il s'agit donc d'une redistribution d'ampleur limitée. On voit également les difficultés d'interprétation auxquelles on se retrouve confronté si l'on cherche à prendre en compte les transferts en nature et pas seulement les transferts monétaires.